Radio Barque, 40e de la saison. Pour clôturer cette saison, nous avons fait appel à Daniel Hernandez, donc, qui est un écrivain. Alors, vous êtes Daniel Hernandez d'origine ouveillanaise, même si vous n'y habitez plus au quotidien.
Donc, avec un patronyme êtes... quand même qui sonne bien. Trace los montes, hein.
Si, bien sûr.
Voilà. Encore une fois, un profil qui est caractéristique. Vous êtes donc d'origine ouveillanaise, vous êtes scientifique de formation, d'ailleurs vous avez exercé, si je ne me trompe, une carrière scientifique. Vous avez... Expliquez-nous ça un petit peu avant d'arriver à votre profil d'écrivain.
Écoutez, j'ai exercé 40 ans au four solaire d'Odeillou, c'est-à-dire que je suis passé de la région narbonnaise à la Cerdagne, donc je suis à la fois gabatch et catalan, voilà.
Oui, et alors justement, quelques mots de ce four solaire d'Odeillou que tout le monde ne connaît peut-être pas.
Ah, oui. Bon, le four solaire d'Odeillou, c'est quand même un fleuron de la recherche nationale, il faut le savoir. Hein.
C'est expérimental, c'est quelque chose.
Expérimental, bien sûr, hein. Donc qui est axé sur toutes les hautes températures, que ce soit les matériaux qui sont appliqués aux hautes températures, ou bien l'obtention de procédés, ou la maîtrise de procédés à hautes températures. Donc on va pouvoir simuler ce qui se passe dans les centrales nucléaires, ce qui se passe dans l'espace, etc. Et c'est vraiment un outil remarquable. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 40 ans là et de voir mon travail évoluer en fonction, bien sûr, des enjeux économiques et des technologies qui apparaissaient.
Alors, Daniel Hernandez, vous dites vous-même 40 ans, que vous y avez travaillé, donc ça existe depuis 40 ans. Est-ce que vous avez l'impression que... êtes-vous satisfait au bout de ces 40 ans du travail de recherche et de son application sur le terrain ?
Il y a toujours la problématique de savoir pas à quoi ça sert la recherche. Finalement, on se chauffe toujours avec le nucléaire. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, c'est la politique, en fait, toujours pareil, de la gestion de la recherche. Parce qu'il est clair que les énergies renouvelables, quand des gens comme Trombe, Fouex lançaient les premiers fours solaires à Mont-Louis, ils avaient déjà une vision de l'utilisation de ces énergies-là. Le problème, c'est qu'il faut continuer à persévérer et à faire un transfert de savoir. Et ça ne s'est pas toujours bien fait.
Oui, c'est ça que je veux dire. Quel est votre avis là-dessus ?
Bon, le transfert ne s'est pas toujours bien fait. Heureusement, il y a des gens qui sont des passionnés, qui s'investissent là-dedans et qui arrivent à se battre avec les économistes pour tirer du pognon, il faut le dire, pour faire marcher la recherche. Parce que la recherche, c'est comme le racing. S'il n'y a pas de pognon, ça ne marche pas. Et donc, il y a toute une espèce de politique de recherche qui est basée sur capter le fric pour pouvoir faire de la bonne recherche. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que donc finalement, le solaire aujourd'hui n'est pas suffisamment utilisé.
Non, il n'est pas...
Par rapport à l'état de la recherche. Et...
Oui, non, il n'est pas suffisamment utilisé, mais bon, il faut reconnaître pour les détracteurs de ces énergies-là que c'est pas facile, ça coûte cher, il faut prendre des habitudes. C'est pour les défendre. Mais maintenant, je pense qu'il faut... Il faut forcer à aller de l'avant, quand même. Voilà, c'est tout.
Cela dit, quand même, je signale, mais il le sait bien, quand même, que la région, enfin, en tout cas à l'époque où j'étais aux affaires, en fait, et dont je m'occupais entre autres de recherche, de transfert de technologie, a beaucoup aidé, quand même, à la consolidation du four de
Néo. Oui, et malgré ça, on n'a pas des capteurs solaires
financièrement,
partout,
hein.
On n'a pas des fermes solaires et partout. Non. Lorsqu'on en construit, dans certaines municipalités, elles sont parfois contestées, elles se retrouvent au tribunal administratif, c'est pas simple du tout.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, je voudrais replacer que le four solaire, on ne travaillait pas dans ce créneau-là, lui. Oui. Le four solaire travaille vraiment dans le domaine des hautes températures et d'une recherche pointue. La partie, on va dire, domestique n'est pas traitée à Odeillou, ce qui est bien dommage parce qu'à une époque, finalement, la région aurait pu développer sur le site d'Odeillou un grand site de recherche solaire. Et en particulier, à ce moment-là, on s'est fait un peu doubler dans les Alpes, il y a, je ne me rappelle plus à quel endroit, mais il y a un grand centre de recherche.
Oui, c'est encore un beau paradoxe. C'est bien les Alpes, mais c'est quand même moins ensoleillé que notre région.
Enfin, les Alpes du Sud, c'est bien ensoleillé.
Oui, quand même, si c'est les Alpes du Sud. Alors, Daniel Hernandez, vous êtes, donc parallèlement peut-être à votre carrière de scientifique, vous êtes très vite devenu écrivain et vous vous êtes lancé dans le polar très vite. D'où vous vient ce goût du polar, justement ?
Bon, le goût du polar, il m'est venu parce que c'est la littérature la plus largement lue aujourd'hui et accessible. Donc voilà, j'ai lu la littérature américaine, scandinave. J'ai pensé que c'était très important que culturellement aussi la région soit présente dans le domaine du polar et je me suis engagé là-dedans.
Et alors, donc, à propos de la région, justement, vous avez toujours situé vos personnages et vos intrigues dans un contexte régional.
Oui, en fait, tous mes polars sont des polars où il y a le vécu à transparer beaucoup. Donc, j'ai choisi, on va dire, Ouveya, Narbonne pour la partie viticole, c'est ce que j'ai fait. Et puis, une autre partie de recherche, un peu plus sur la Cerdagne et la Catalogne.
Et alors, à un moment, votre passé, vos origines ressortent, puisque vous aviez écrit « Les vendanges du caudillo ».
Oui, les vendangeurs du caudillo,
oui, pas les vendanges, les vendangeurs du caudillo.
Mais bien sûr, comme c'est du vécu, je raconte un peu mon histoire. Les vendangeurs du caudillo, c'est ces 20% de population qu'on trouvait dans un village comme Ouveyan à l'époque. Donc je retrace ça. Alors, pas uniquement que cette époque-là, puisque en ce qui concerne le monde viticole, j'écris les vendangeurs du caudillo qui parlent de la vigne dans les années 50, mais j'ai également écrit les cathédrales du vin qui parlent de la disparition des caves coopératives dans les débuts des années 2000. Donc il y a quand même une étude, on va dire, de cette société qui évolue.
Oui, parce que vous êtes un petit peu historien aussi, vous vous intéressez à l'histoire.
Je témoigne, on va dire que témoigne de la mémoire collective et je témoigne de ce que j'ai vécu.
Mmh. Une remarque, Michel.
Oui, non, mais c'est un sujet qui me sont chers parce que, notamment le premier roman dont il vient de parler, notre invité, c'est l'histoire de ma famille, quoi. Hein, ma grand-mère, ma grand-mère paternelle, en fait, hein, est originaire de Fuente-Alamo, village près de Mourcq, dont beaucoup d'ailleurs d'habitants de d'Ouveyan sont originaires, hein,
ma famille.
C'est ce que disait Daniel Hernandez.
Et c'est vrai que ces populations ne sont pas, leur rapport économique et culturel même, hein, à ce territoire n'est pas suffisamment mis en évidence et surtout mis en valeur. J'avais proposé d'ailleurs à l'époque à Michel Moynier de faire une action de coopération avec un village ou Fuente-Alamo ou Fuente-Coux pour justement exprimer cela. Je constate malheureusement que c'est très difficile à faire et qu'on préfère aller du côté de Tolède.
Oui, qui ne s'est pas fait. Or, encore que Tolède, on le voit de loin aussi, à Narbonne, me semble-t-il, en tout cas. En ce qui concerne, alors, on va voir un petit peu descendre sur le terrain professionnel, c'est-à-dire que quand on écrit, on a envie de se faire publier, il faut trouver des éditeurs. Comment ça se passe, Daniel Hernandez?
J'ai eu beaucoup de chance, et c'est que dans un premier temps, il y a eu une...
Parce que vous avez plusieurs éditeurs, ou vous avez eu plusieurs.
J'ai deux éditeurs essentiellement, c'est Mare Nostrum à Perpignan qui avait lancé la collection Polar Catalan, donc... Il m'avait pris de suite, en fait, parce que j'avais écrit sur la Cerdagne. Et ensuite, il y a une maison d'édition allemande, Wardberg, qui, elle, a choisi de cibler le produit des polars régionaux et a recruté, on va dire, des auteurs un peu confirmés.
Un éditeur allemand.
C'est un éditeur allemand,
ouais. Oui, c'est ce qui est surprenant, mais enfin, pourquoi pas.
Pourquoi ? Il y a Das Auto, Das Polar, peut-être, donc, si vous voulez. Ils ont choisi ce créneau-là, je ne sais pas s'ils réussiront, mais en fait, depuis, c'est mon troisième polar qui est édité chez eux, voilà.
Oui, d'accord. Alors, et donc, se faire éditer, on avait, il n'y a pas très longtemps, un autre écrivain qui est Jean-Pierre Grotti, qui nous expliquait que ça fait partie aussi du travail d'aller chercher l'éditeur et ensuite de faire de la promotion.
Alors, moi en fait, je par chance, j'ai pas eu de problème pour chercher d'éditeur et donc j'ai pas eu à me battre pour faire ça. Et je pense que c'est très difficile, effectivement. Et en ce qui concerne la promotion, celui qui est tous les dimanches pour vendre ses produits, c'est un peu difficile. C'est pas mon cas. Je préfère me consacrer à l'écriture.
Ah, c'est-à-dire que le côté mercantile, vous le voyez d'assez loin. Écoutez, vous ne vous souciez pas du tirage.
J'ai la chance, si vous voulez, c'est pas prétentieux, que mes livres se vendent suffisamment pour que l'éditeur continue à me vendre, donc à me publier. Donc, si vous voulez, je garde le bon et j'ai mes cartes du... Alors, par contre, je participe à tout type d'animation, si vous voulez, qui est locale. Hein. J'étais à Narbonne dernièrement, je vais dans les médiathèques, les bibliothèques. Mais, par exemple, je répugne à aller faire des signatures dans les cultura, excusez-moi de faire la publicité, mais dans les librairies, etc. Parce que c'est très difficile de rencontrer des lecteurs.
Ah, alors expliquez-nous ça par contre, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y en a qui pensent que c'est très important. Vous vous dites, c'est peut-être important, mais difficile. Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'il vaut mieux rencontrer des lecteurs qui vous connaissent et expliquer son projet, puisqu'en fait, mon projet, il existe, hein, que plutôt de se mettre derrière une table et de faire de l'animation, entre guillemets, dans une librairie, parce que là, dans une librairie... Il faudrait qu'il y ait une bonne promotion pour qu'on sache que vous soyez là. Il faut qu'il y ait des lecteurs qui viennent vous trouver. Je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. Il vaut mieux qu'il y ait un débat autour d'un thème, en particulier dans mon écriture. Il y a beaucoup de thèmes. Je préfère un débat sur ces thèmes-là plutôt que de vendre un produit comme quelqu'un qui vend des citrons ou des légumes, quoi. Voilà.
D'accord, donc vous avez une certaine distanciation par rapport à ça.
Mais je respecte mes lecteurs, parce qu'il n'y a rien de plus agréable qu'un lecteur qui vous a lu, si vous voulez, et qui vous parle de ce que vous avez écrit. Par contre, quelqu'un qui passe à côté de vous et qui vous regarde curieusement, c'est quand même difficile, et pour lui de croiser votre regard, et vous également de croiser son regard. Voilà, c'est très difficile.
Oui, vous voulez dire d'avoir une approche marketing commerciale un peu agressive, c'est pas votre truc, quoi.
Ah non, mais je pense que c'est difficile, et je pense qu'aussi les clients, les lecteurs, ils en ont assez d'être sollicités sans arrêt pour les choses. Il faut laisser les gens un peu libres.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur vos thèmes de prédilection, et puis notamment ce côté scientifique avec le dernier livre, votre dernier roman que vous avez publié, La Salamandre. On va revenir là-dessus. Mais au quotidien, tout à l'heure, on évoquait avec Michel Santo un certain nombre de sujets sur lesquels on déposait des contre-regards, c'est-à-dire des regards critiques. Et comment vivez-vous, vous écrivains, dans ce monde quotidien? Est-ce que vous vous distanciez là encore, ou est-ce que vous vous sentez immergé dedans? Et quel regard y portez-vous?
Je porte les deux regards, c'est-à-dire qu'en fait, tous mes romans sont un avis qui est donné sur la société, sur des tas de thèmes. Mais en même temps, comme j'écris dans la fiction, je m'en extrais et je la manipule à ma façon. Donc en fait, je suis dans le monde réel et je vais stigmatiser sur ce que moi j'aime pas. Et en même temps, je vais me mettre dans une fiction où je vais me balader comme je voudrais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais...
Quel regard portez-vous sur... Bon, par exemple, on vient d'apprendre aujourd'hui ou récemment que l'Angleterre donc allait quitter l'Europe, l'Union européenne. Bon, est-ce que vous dites, finalement, pour moi, ça importe, ou je vois ça d'assez loin, c'est pas mon truc?
Non, bien sûr, je suis concerné comme tout le monde, mais là, c'est un débat très très vaste, parce que quelle est l'Europe qu'on a construite aujourd'hui, hein? J'ai pas écrit de polar là-dessus, mais c'est vrai que c'est un problème économique, etc. Si, quand même, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Absinthe, qui parle en fait de Schengen, hein, en fait, et de cette volonté qu'on a eue de faire circuler le plus facilement possible le fric, le pognon, les affaires, etc. Et donc, voilà, j'ai une petite vision là-dessus. Je trouve qu'on a trop axé l'Europe aujourd'hui sur le côté financier, voilà mon point de vue, et qu'on n'a pas construit une Europe, bon, c'est bateau ce que je dis, hein, tout le monde le dit, c'est une Europe sociale, une vraie Europe, voilà, on en parle, c'est tout.
Donc vous évoquez ces fameux accords de Schengen dans quel livre ?
Absinthe, qui parle de la fermeture du Pertus. Hein. Le poste du Pertus ferme en 2012 peut-être. Et alors l'histoire est curieuse, parce qu'elle ferme parce que c'est les Mossos catalans qui veulent plus voir les guardias civils sur la frontière. Hein. Donc ils poussent l'Europe à appliquer le règlement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de poste frontière au Pertus, alors que ce poste frontière était très important, en particulier pour le trafic de drogue, en particulier.
Ah, c'était une manœuvre catalaniste, ça.
C'est ce qu'on m'a expliqué.
c'est assez intéressant, c'est original.
Ça m'a dit, moi qui fuis la fête de la musique pour aller me réfugier dans les Alberts, en fait, près du boulot, en fait, repasser la frontière, en fait, de manière très fluide, comme ça, pour aller manger quelques tapas à Puerto de la Selva. Quel bonheur, quand même. Ça prend beaucoup moins de temps, et c'est tellement plus facile.
Et alors, Daniel Hernandez, donc ce roman, pourquoi ce titre Absinthe?
Bon, alors Absinthe, c'est quelque chose de curieux, c'est qu'en fait, je suis
c'était
invité...
C'était pas un nom de code.
Non. Je suis invité chez une bibliothécaire dont le mari était douanier et dont le poste était en fait mis en balance. Il travaillait au Pertus, il devait partir du Pertus. Il m'a parlé de tous ces problèmes-là que j'ai intégrés dans le polar. Et en même temps, il se trouve qu'il avait un bar aménagé à un amateur d'absinthe. Donc en fait, ça a été une soirée particulière parce que j'ai découvert l'absinthe ce jour-là. Et en même temps, ses problèmes qu'il avait de travail, puisqu'il venait récemment d'arriver de Paris, et il risquait de redevoir partir à Paris. C'était, voilà, des circonstances.
C'est un douanier avec l'absinthe qui était illégale. En fait. Bon, oui, ça voilà. Produit de manière curieuse. Bon.
J'allais c'est dire, pour les gens qui sont jeunes et qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'absinthe, c'est un alcool. Qui avait été interdit en France. Exactement. Il y a belle lurette.
Qui commence à revenir, à, semble-t-il.
Qui semble, oui, commun, voilà, qui semblerait remontrer le bout du nez.
C'est vrai, oui.
Alors peut-être que votre polar va redevenir à la mode lorsque la boisson elle-même reviendra à la mode. Alors les thèmes, donc, Et notamment le dernier de vos romans, Daniel Hernandez, La Salamandre, il est basé, alors c'est un roman, on dirait scientifique, écolo en quelque sorte. Alors des romans écolos, c'est peut-être pas monnaie courante. Expliquez-nous quelles sont vos motivations.
Bon, alors en fait, ce polar est un peu particulier parce que ce n'est pas mes thèmes de prédilection. Mes thèmes de prédilection, c'est plutôt la vigne, en fait, ces choses-là. Et il se trouve, la raison essentielle, c'est qu'en fait, j'évoque la vie de mon neveu qui s'appelle Axel Hernandez et qui est un écolo, qui a eu d'ailleurs le prix de la Fondation cette année, qui est un prix de la Fondation qui est patronné par une société avec les grands têtes d'affiche, Nicolas Hulot, etc. Et donc, il a effectivement, toute sa vie, il essaie de sa jeune vie, il étudie les salamandres, il essaie de les préserver. Donc, il a vraiment une volonté d'écolo et il a eu le prix d'ailleurs en tant que chercheur écolo. Et j'ai voulu parler de ces animaux qui disparaissent, voilà, donc, et de mon neveu. Alors scientifique, c'est pas vraiment scientifique parce que j'évoque un peu la génétique, mais pas très, de façon très importante.
Oui, mais c'est surtout les enjeux. Apparemment, on serait prêt maintenant à tuer pour des raisons écologistes en quelque sorte.
Ah oui. Ouais, là, c'est un raccourci. Non, je veux dire, après, bien sûr, les mafias font du fric avec n'importe quoi, avec tout. Alors, bien sûr, il y a apparemment une salamandre miraculeuse qui apparaît, dont ils veulent faire, bien sûr, du trafic avec cette salamandre, parce qu'ils pourront faire des greffes d'organes comme ils font, parce que j'évoque les trafics d'organes, etc. Bon, voilà.
Oui, c'est ça, justement, qui est original, parce que dans les polars, habituellement, on n'évoque pas ce côté-là. Vous voyez véritablement des mafias utiliser l'écologie pour faire du fric, évidemment. Est-ce que vous le voyez vraiment ?
Je le vois pas, mais je pense qu'elles en sont capables.
Ah non, la force du capitalisme, quand même, ou du libéralisme, peu importe, c'est effectivement de recycler... La propre contestation de ses fondements pour en faire effectivement du business. Bon, mai 68 n'a été en réalité qu'une grande ouverture, encore plus de libéralisme sur le plan économique, social et culturel.
Oui, alors ça, c'est intéressant. J'aimerais que Cohn-Bendit soit là pour savoir ce qu'il en pense, s'il est d'accord avec ce diagnostic.
La libération sexuelle est devenue effectivement.
Ça, c'est autre chose.
Est devenue une grande opportunité pour toute une série de marchands, incontestablement.
Oui. Ok. Donc, alors, on va finir là-dessus, Daniel Hernandez. Donc, la salamandre, c'est un animal qui disparaît, enfin, comme beaucoup d'autres.
Comme un peu toutes les espèces animales, la salamandre a un nombre incalculable de variétés, et il y a des variétés qui disparaissent, voilà.
Oui.
Par exemple, dans la région, on voit très bien que les gros lézards verts qu'on voyait, on en voit de moins en moins. Et les salamandres, c'est quelque chose qui était courant. Bon, la salamandre qu'on appelle la salamandre de feu, la belle salamandre jaune et noire, on la croise encore dans notre région, bien sûr. Mais bon, voilà.
Oui, et donc voilà. Et vous imaginez que pour défendre en fait cette espèce, des gens montent des intrigues et tuer des gens.
Ils ne défendent pas l'espèce, ils essaient d'exploiter, puisque j'explique que finalement il y a une variété mutante qui est en train de disparaître parce qu'on veut exploiter toutes ces cellules, donc ils ne les défendent pas, ils veulent les exploiter.
Oui, alors les variétés mutantes, c'était peut-être ça votre idée
ça montre comment finalement des espèces vont disparaître à cause des produits, des pesticides par exemple à Iquitos, ou des produits systémiques des traitements des vignes à Minerve, qui vont faire que les gènes vont muter en fait, et qu'il va y avoir une autodéfense de ces animaux.
Voilà, là on reconnaît évidemment le scientifique derrière tout ça. Merci en tout cas Daniel Hernandez d'être venu parler à la fois de vos livres et puis justement de toutes ces considérations de scientifique et puis de citoyen. Et je le rappelle, vous clôturez notre saison en cette 40e de Radio Barque, vous clôturez cette saison, ce qui signifie que on va donner rendez-vous bien à la rentrée, n'est-ce pas Michel ?
Et en espérant surtout que nos auditeurs prendront le dernier ouvrage de notre ami pour le lire sur la plage ou sous un parasol, peu importe.
Rappelons le titre, La Salamandre, écrit par Daniel Hernandez.
À lire.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée.
À bientôt.